espérance vivante pour celui qui croit. Seigneur, nous voulons croire en toi. Nous voulons, Seigneur, nous appuyer sur toi, le rocher des âges, l'éternel Dieu Tout-Puissant. Merci pour ces instants que tu nous donnes, Seigneur, de pouvoir parler de ta part. Ma prière est que tu bénisses ce moment et que tu bénisses ce message sur mes lèvres. Bénis ton peuple et bénis même ceux qui écoutent, ceux qui suivent à travers les ondes. Que chacun trouve sa part dans ce qui sera dit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Eh bien, les derniers dimanches que j'ai prêché, j'ai promis de revenir sur le même passage de 2 Samuel 9, 1 à 13. Et nous relisons cela. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saül, nommé Tiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Tiba? Et il répondit, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que juge envers lui de la bonté de Dieu? Et Tiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan, perclu de pieds. Le roi lui dit, où est-il? Et Tiba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Mephibosheth. Et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit, qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chemin tel que moi? Tu cultiveras pour lui les tentes, les terres, toi et tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes afin que les fils de ton maître aient du pain à manger et Mephibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or, Tiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi, mon seigneur, ordonne à son serviteur. Et Mephibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Mephibosheth avait un jeune fils nommé Mika. Et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Tiba étaient serviteurs de Mephibosheth. Mephibosheth habitait à Jérusalem car il mangeait toujours à la table du roi. Il était boiteux de deux pieds. Amen. Merveilleux récit. On en a parlé l'autre dimanche. Bien-aimé dans le Seigneur, la vie d'un homme est un cycle d'événements, un cycle de faits, un cycle de situations. Cette vie est faite des hauts et des bas. On passe par les sommets et par les vallées. C'est un cycle. Et le thème est le même. De Lodébar à la table du roi. De Lodébar à la table du roi. Trois points graviteront autour de ce thème. Premier point, c'est être un canal de bénédiction pour les autres. Le second point, c'est exercer l'hospitalité. Et le dernier point, c'est savoir que Dieu a un plan pour chaque personne. Un plan pour chaque personne. Revenons au premier point. Être un canal de bénédiction pour les autres. Jésus est venu représenter son Père ici-bas sur terre. Il est venu représenter la bonté de Dieu. Tout comme David a dit, je vais user de la bonté de Dieu envers le fils de Saül. Nous sommes nés pour faire du bien. Nous sommes appelés à faire du bien. Dans Actes 10, 38, la Bible dit, vous savez combien Dieu a au roi du Saint-Esprit et de force, Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Jésus est venu pour faire du bien. Et il faisait du bien de lieu en lieu. Il faisait du bien. Dans l'empire du diable, il n'y a pas de bien. Dans l'empire du diable, il n'y a que maladie. Dans l'empire du diable, il n'y a que malheur. Dans l'empire du diable, il n'y a que des mauvaises choses. Mais dans l'empire de Jésus, il y a la bonté de Dieu. Il y a la guérison. Il y a une espérance bénie. Des empires dans lesquels vous êtes, mon frère, ma sœur. Vous savez, dans ce récit que nous venons de lire, nous voyons que la première personne à faire du bien à Mephibosheth, c'est la nourrice. Quand les choses se sont détériorées, la nourrice a pris Mephibosheth qui était encore tout petit. Elle a fui avec Mephibosheth. Et même en route, Mephibosheth est tombée et elle a eu les pieds cassés au point de devenir boiteux. Elle est partie avec Mephibosheth jusque dans la maison des Maquis à Lodébar. Je ne connais pas la relation que cette nourrice avait avec Maquis. Mais la Bible nous dit que Mephibosheth est resté longtemps là-bas dans la maison de Maquis. Et Maquis aussi, c'était l'une des personnes qui a fait du bien à Mephibosheth. Recevoir le fils d'un roi tué, ça il faut le faire. Il n'a pas même eu peur de David, que David était le grand roi qui pouvait le tuer. Il faut qu'il y ait des gens qui soient toujours prêts à recevoir les malheureux. Des gens qui sont désespérés. Et le lieu pour recevoir des gens qui sont désespérés, c'est l'église. C'est pourquoi l'église doit être au milieu du village. Pas à gauche, pas à droite. Nous encourageons les gens à faire de la politique. Parce que si vous ne faites pas la politique va vous faire. Mais pas dans l'église. Pas dans l'église. dans l'église, on est pour tout le monde. Alléluia. Tout le monde. La troisième personne que nous voyons faire du bien à Mephibosheth, c'est David. David dit, je vais user de la bonté de Dieu. Bonté de Dieu. Il parle de Dieu. De l'abondance du cœur, la bouche parle. Si ton cœur est rempli de Dieu, eh bien tu vas parler de Dieu. La Bible dit, David lui dit, ne crains point. Là, il s'adresse à Mephibosheth. Car je vais te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père. Et tu mangeras toujours à ma table. Alléluia. Tu mangeras toujours à ma table. Dieu désire que chaque chrétien fasse du bien. Que chaque chrétien soit un bienfaiteur. Bienfaiteur. Quelquefois, les gens fouillent les églises. Parce que quand les gens viennent dans les églises, au lieu de trouver une bonne ambiance, c'est des critiques, c'est des murmures. On parle mal des autres. Et il y a des églises comme ça. Je suis allé dans une église un jour, quelque part. Mais tel qu'on parlait du pasteur, je me suis dit, oh, cette église ne fera même pas un mois. Elle va éclater. Mais l'église n'a pas éclaté, les gens sont toujours là, les pasteurs sont toujours là. C'est pas possible. Tu es appelé à faire du bien. Fais du bien aux autres. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 15, Paul dit, « Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. » Envers tous, même les païens. Faites-leur du bien. C'est comme ça qu'ils reconnaîtront que nous sommes enfants de Dieu. Pas seulement aux chrétiens, même aux païens. Il faut faire du bien, bien-aimé, en soutenant les autres, en priant pour les autres, et même en aidant les autres à venir à Christ. Vous savez que Tim a aussi a fait du bien, parce que il a dit la vérité. Il pouvait mentir, non, je ne connais, tous les fils sont morts. Mais il a dit, il y a un, il s'appelle Mephibosheth. Il est dans la maison des maquis, à Lodebar. Là où il n'y a pas de vie, où il n'y a pas de pâturage. Lodebar signifie sans pâturage. Et n'oubliez pas que le peuple juif, c'était un peuple berger. S'il n'y a pas de pâturage, il n'y a pas de vie. Toujours faire du bien. Toujours parler du bien des autres. Il y a des gens, quand ils ouvrent la bouche, eh bien, ils débitent toujours des bêtises, des sottises. Parlez mal des autres. Dans l'église, nous devons parler du bien des autres. Alléluia. L'amour couvre les fautes. Même si quelqu'un, vous voyez que la personne fait mal, vous priez pour la personne. Vous vous taisez. Et ça aide l'église du Seigneur. L'église n'est pas un club. L'église n'est pas un parti politique. L'église, c'est la maison de Dieu. Le peuple de Dieu mis à part. Dans Galates 6, verset 2, la Bible dit, portez les fardeaux les uns les autres. et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. La loi de Christ, c'est d'aimer les autres, d'aimer premièrement le Seigneur. La Bible se résume en cela. C'est l'amour. Aimer premièrement les autres, et Dieu, et deuxièmement, aimer les autres comme nous-mêmes. Et cela me conduit au second point, qui n'est pas très très différent du premier, c'est l'exercice de l'hospitalité. Exercer l'hospitalité. L'exercice de l'hospitalité, frères et sœurs, ne dépend pas de ce que nous avons. Est-ce que vous m'entendez bien? Cela ne dépend pas de ce que nous avons. Et pour donner quelque chose à quelqu'un, cela ne dépend pas de votre richesse ou de votre pauvreté. Parce que même le plus pauvre a toujours quelque chose à donner. L'exercice de l'hospitalité dépend plus de notre obéissance à la parole de Dieu. De notre amour pour les prochains. Matthieu habitait le débat. Un lieu sans pâturage. Mais il a accepté d'accueillir Mephibosheth. Qui était le seul survivant de la famille de Saül. La Bible encourage les chrétiens à l'hospitalité, à l'exercice de l'hospitalité. Dans 1 Pierre 4, verset 9, l'apôtre dit, « Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmure. » Sans murmure. Il y a des gens qui, lorsqu'ils vous donnent quelque chose, deux minutes après, ils te lavent. Tout le temps chez moi. Il pense vraiment quoi? Je suis devenu son père ou sa mère. Tout le temps, moi, je dois l'aider. Autant ne pas donner que de parler. Sans murmure. Il y a des gens qui aiment donner, aider, mais ils murmurent. Alors, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Il faut toujours regarder votre voisin à gauche, à droite. Ah, elle est toujours habillée comme ça. Toujours, toujours, avec les mêmes pagnes. Mais tu as plusieurs pagnes, donne-lui des pagnes. Le Seigneur te montre ça pour que tu lui donnes. Le Seigneur te montre quelqu'un qui est mal habillé pour que tu lui donnes une chemise. Et si tu donnes une chemise à quelqu'un, qui n'a pas de chemise, il va bénir le Seigneur à cause de cela. Dans Hébreux 13, verset 2, la Bible dit, n'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Sans le savoir. Ange. Angelos, ces messagers, envoyés. Les anges sont des envoyés de Dieu. Ils ont logé des anges sans le savoir. Et vous savez, l'exercice de l'hospitalité paie toujours. Même si on ne voit pas, on ne voit rien ici-bas sur terre, le ciel nous réserve des surprises. Nous avons le cas d'Abraham dans Genèse 18, versets 1 à 15. Je vous économise la lecture. Je vous épargne cela. Là, Abraham a reçu des gens, trois personnes, dans sa case. Et il a appelé vite son épouse pour faire cuire quelque chose. tous ses visiteurs. C'est après cela que ses envoyés vont lui dire, à la même heure, ton épouse concevra et aura un enfant. Le message de Dieu est venu après l'hospitalité. Et que dit les Rahab et les espions envoyés par Josué? Rahab a dit, je comprends, tout le monde a peur, tout le monde est effrayé. Lors de votre passage, tout le monde tremble. On sait que vous venez de Dieu. Et Rahab les a cachés. On les a poursuivis jusque chez Rahab. Ensuite, Rahab les a fait partir. Et ils ont donné un signal à Rahab. Il faut mettre le cordon rouge, l'image du sang. Quand nous passerons et qu'on verra cela, toi et ta famille, tu seras épargné. Et finalement, quand Josué est passé avec ses troupes, ils ont vu ça, ils ont épargné la vie à Rahab. Et nous savons que Rahab est rentré dans la généalogie du Messie. Bien-aimé dans le Seigneur, exerçons toujours l'hospitalité. Nous avons l'exemple de la veuve de Sarepta, avec l'huile et un peu de farine. Le prophète dit, mais fais couler ça pour moi seul. Aujourd'hui, on dirait, oh, les pasteurs là, il est dangereux. Mais la veuve de Sarita n'a pas murmuré. Elle a fait couler les gâteaux pour l'homme de Dieu. Mais l'huile ne manqua pas et la farine ne manqua pas dans sa maison. Alléluia. Vous savez, lorsqu'on exerce l'hospitalité ou lorsqu'on donne, le Seigneur remplace. Remplace. Et c'était ça, la vie des Macédoniens. Ils donnaient au-delà de ce qu'ils recevaient. Comment on peut donner au-delà de ce qu'on reçoit? C'est-à-dire, ils recevaient et ils donnaient. Et remarquez dans la vie, souvent des gens bien, ce sont des gens qui s'occupent des autres. Ils aident les autres et le Seigneur les bénit. C'est comme ça. C'est souvent ça. Dites-moi un député qui ne fait rien pour sa population. Quand il va demander quelque chose, est-ce qu'on va l'aider? On va l'élire? Non. Souvent, ils donnent, ils dépensent. Ils aident les autres. N'est-ce pas ça, Papa José? C'est ce qui arrive. Que le Seigneur nous aide. Il y a des mamans qui ont un verset sur les lèvres. Dieu a dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Oui, la Bible a dit ça, c'est vrai. Mais la Bible n'a pas dit, l'homme abandonnera son père et sa mère. Non, non. Est-ce que les mamans m'entendent? Ce n'est pas abandonné. Ils peuvent quitter, mais ils s'occupent. Mais si l'homme quitte, la femme aussi doit quitter, n'est-ce pas? Mais pourquoi est-ce qu'on a insisté pour que l'homme quitte? Cela me conduit à notre troisième point. Savoir que Dieu a un plan pour chaque personne. Dieu a un plan pour toi, mon frère et ma sœur. Même si tu te poses trop de questions, sache que Dieu a un plan pour toi. Et tout ce que Dieu fait, c'est pour nous enseigner. Pour nous enseigner. Je pense que lorsque Mephibosheth s'est retrouvé à la table du roi, sa vision des choses avait changé. D'abord, il était petit, il ne savait rien. Et puis tout à coup, il se retrouve au bas de l'échelle. Et par la grâce de Dieu, il se retrouve à la table du roi. Là, sa vision des choses avait changé. Il pouvait dire, l'homme, c'est un homme. L'homme est créé à l'image de Dieu. L'homme mérite d'être respecté. Tant que Dieu vit, tant que toi tu es vivant, parce que Dieu vit toujours. Tant que tu vis, personne ne peut mettre un point final à ta vie. Il est peut-être possible de mettre un virgule ou un point virgule, mais pas un point final. Celui qui met le point final, c'est celui qui t'a créé. C'est Dieu. Écoutez ce que l'Apocalypse dit. Apocalypse 1, 17 à 18. Ça, c'est Jean qui parle. Il dit, quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Je suis le premier, le dernier, le vivant. J'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Et il lui montre la clé. Il dit, je tiens les clés de la mort. Il dit, c'est jour des morts. Alléluia. Ça dit, c'est moi seul qui suis capable d'ouvrir et de fermer. Si j'ouvre, personne ne peut fermer. Et si je ferme, personne ne peut ouvrir. La vie d'un homme a des épisodes. Après la mort de son père et son grand-père, Mephibosheth, élevé par sa nourrice, ne pouvait jamais s'imaginer qu'un jour, sa situation pouvait changer. Jamais. Parmi nous, il y a des gens qui ont perdu un des membres de leur famille, un parent, ou même les deux. Ils sont orphelins, mais ils se disent, mais comment je vais m'en sortir? Il y a ces gens qui vivent l'injustice dans leur lieu professionnel. Et parfois, on voit l'injustice même dans les églises. Dans les dénominations, parfois c'est le tribalisme. Et les gens pensent que ben, c'est fini. Il n'y a plus d'espoir. Et bien aimé, lorsque nous vivons dans une situation, dans une certaine situation, nous nous habituons et perdons l'espoir du changement. Surtout dans le sens positif. On est comme une personne en plein milieu de forêt. Et pourtant, Dieu est capable de changer tout. Amen. Dieu est capable. Moïse, en quittant la maison de Pharaon, croyait que tout était perdu pour lui. Il quitte la maison de Pharaon pour la cause de son peuple, mais il est aussi incompris par le même peuple. Certainement, il se disait, mais j'étais mieux chez Pharaon. Mais j'ai quitté là-bas à cause de ce peuple et je suis incompris par ce peuple. Qu'est-ce que je deviendrai? Joseph aussi, après l'oubli de les chansons, ne s'imaginait pas un seul instant que sa situation serait changée. Alors que quand il sortait de la prison, ses deux amis, Joseph leur a dit, quand vous serez chez les chefs, ne m'oubliez pas. Ne m'oubliez pas. L'homme peut faire des promesses, mais si Dieu ne saisit pas son cœur, rien ne va se passer. Ils sont partis. Les chansons a eu la vie sauve. L'autre mort. Les chansons a repris sa position, mais il a oublié Joseph. Les gens vont t'oublier jusqu'à ce que le Seigneur lui-même te prenne par la main et te lève. C'est quand Pharaon fut troublé par les rêves que les chansons vont se souvenir de Joseph. Ah oui, je connais un Joseph. Un Joseph que j'ai oublié. Il m'avait dit de ne pas l'oublier. Mais Dieu a les moyens pour que les gens se souviennent de toi. Il a les moyens. C'est comme ça que Joseph fait partie de la prison. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais terminer en vous disant qu'après la pluie, qu'est-ce qu'il y a? C'est le beau temps. C'est le beau temps. Par moments, Dieu nous casse. Il nous brise. Et on se pose des questions, mais pourquoi Seigneur? Lui-même sait le pourquoi. Il veut que nous soyons à son image. Il nous brise au point de désespérer complètement. Et comme je l'ai dit, les hommes peuvent t'oublier, mais Dieu ne t'oubliera jamais. Dieu ne t'oubliera jamais. Je pense que tout le monde avait oublié Mephibosheth. Tout le monde. Mais c'est Dieu qui a mis dans le cœur de David l'idée de chercher un des fils, quelqu'un qui appartient à Saül. Quelqu'un a dit ceci. Quand Dieu voulait faire de Moïse un leader, il ne lui a pas donné un micro. Il lui a donné un désert. Quand Dieu voulait faire de David un roi, il ne lui a pas donné une couronne, il lui a donné un Goliath. Et quand Dieu voulait élever Joseph, il ne lui a pas envoyé des gyrophares avec des cortèges pour l'escorter. Il l'a envoyé en prison. Jésus, qui est notre modèle, a connu la croix avant la gloire. Quelqu'un passe-t-il par la souffrance ce matin? Quelqu'un est-il comme Mephibosheth à Lodébar? Sache que tu ne vas pas toujours rester à Lodébar. Parce qu'il y a un Dieu dans les cieux, tu quitteras Lodébar pour Jérusalem. Nous allons incliner nos têtes et nous allons prier. Alléluia. Seigneur, merci. Frères et sœurs, es-tu touché par ces messages? Veux-tu que nous puissions prier pour toi, là où tu es? Tu peux t'élever rapidement et nous allons prier ensemble. Lève-toi là où tu es. Randa Maya Shukundoro. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es merveilleux. Tu passes par des moments difficiles, oui, mais Dieu connaît. Il te prépare à des grandes choses, à des merveilles. Et comme je l'ai dit l'autre fois, quand Lodébar était à table avec le roi, on ne voyait pas ses pieds percutés, on voyait seulement Lodebar, la partie d'en haut. La partie d'en haut. Alléluia. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Jésus, merci. Alléluia.
Précieux Père Céleste, oui, tu es le Tout-Puissant. Ce matin, tu viens par cette parole. Cette parole pleine d'onction. Pour nous rappeler de ne pas oublier que tu es. Oui, à Moïse, tu as dit, va dire à Pharaon, je suis, m'a envoyé vers toi. Je suis et ton nom. Je suis et ton nom. Et ce matin, tu reviens nous dire, n'oublie pas que je suis capable de tout changer. Je l'ai fait pour Mephibosheth. Je ne t'ai pas oublié. Ernest, je ne t'ai pas oublié. Franck, je ne t'ai pas oublié. Joseph, je ne t'ai pas oublié. Tu vois, dit, je ne t'ai pas oublié. Je ne t'ai pas oublié. C'est ce que tu es venu dire à chacun de nous ce matin, Seigneur.
Alléluia.
Ouf, qui pouvait savoir que les épreuves sont une école? Ce matin, tu as mis une parole de gratitude dans la bouche de ton serviteur. Alors ce matin, nous disons merci. Merci pour ta parole. Alléluia. Merci pour cette connaissance. Merci parce que tu es venu nous donner la paix. Ta parole donne la paix.
Mm-hmm.
Oui, nous avons la paix au-dedans de nous ce matin. Parce que tu es là. Parce que tu vis, alors nous n'avons rien à craindre. Ce que nous
Alléluia.
Chantons, Seigneur, ce matin, devant toi, nous nous tenons et nous attendons tout de toi.
Alléluia.
Que cette parole vive et bénisse ton serviteur, au nom de Jésus.
Amen. Gloire au Seigneur. Nous voulons nous approcher de la table du Seigneur. Gloire au Seigneur.